Magazine, dialogue entre Congolais avec Jean-Claude, tout va comme on va la présentation.
Bonsoir, deux thèmes dans l'émission Dialogue entre Congolais ce soir. Environ deux bataillons rwandais présents ce mardi au Nord Kivu. Comment expliquer la présence de ces troupes en RDC? C'est le premier thème. Dans ce débat également, la proposition du président français pour régler la crise à l'est de la RDC, une proposition qui concerne notamment la gestion concertée des richesses de l'est du pays. C'est le second thème de cette émission. Nous en parlons avec comme invité le député national Alphonse Mounamiré. Il est élu du territoire de Wamungo, Sud-Kivu, membre de l'Union du Peuple pour la République et le Développement Intégral, UPRD, Force Politique Maïmaï. Maître Jean Mbouyou, qui est aussi député national, élu de Lubumbashi, il est cadre du CPRD, et le professeur René Lemarchand, professeur émérite de l'Université de Floride aux États-Unis, auteur d'un ouvrage intitulé « La dynamique de la violence en Afrique centrale ». À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Environ deux bataillons rwandais présents ce mardi au Nord Kivu. Comment expliquer la présence de ces troupes en RDC? C'est le premier sujet de cette émission. Mais comment ouvrir ce débat sans nous arrêter une minute sur l'événement à la une au monde ce mardi 20 janvier? Il s'agit, vous le devinez, de la prise de fonction de Barack Obama. Il vient d'être investi à quelques minutes président des États-Unis d'Amérique, 44e président pour préciser. C'était devant le Capitole, qui est le siège du Congrès américain. Ce fils d'un immigré kényan et d'une américaine blanche devient ainsi le premier afro-américain à accéder à ce poste. Commentaire en quelques secondes avec nos invités. Monsieur Alphonse Mounamiré, bonsoir.
Bonsoir, camarade.
Vous pouvez peut-être vous approcher du micro pour qu'on vous entende mieux. Quel commentaire vous pouvez dire? Qu'est-ce que ça signifie en quelques secondes pour vous l'élection de Barack Obama, investi aujourd'hui 44e président des États-Unis?
Monsieur le journaliste, je dois d'abord vous remercier d'avoir pensé à nous pour pouvoir participer à cette émission.
Je vous en prie.
Une émission qui va nous permettre pratiquement de pouvoir, comment le dirais-je, atteindre toutes nos bases respectives.
Oui, mais allez, tout droit parce qu'on n'a pas le temps.
Le temps est limité. Mais d'ores et déjà, nous souhaitons plein succès au nouveau président Barack Obama. Et nous les félicitons parce qu'effectivement, à ce niveau ici, il y a lieu de pouvoir constater que la démocratie fait du chemin. Au niveau des États-Unis d'Amérique, un noir américain à la tête de ce pays, nous estimons qu'effectivement, c'est déjà positif.
Merci beaucoup, on s'arrête là parce que c'est pas le sujet principal, on a compris, c'est juste un petit commentaire. Ouais. On va prendre aussi celui de Maître Jean Mbouyou, bonsoir. Maître Jean Mbouyou, il n'est pas encore, on l'aura, la réalisation s'active, mais nous avons en ligne le professeur René Lemarchand, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, professeur, j'imagine que vous avez suivi cette investiture de Barack Obama devant des millions d'Américains.
Ah, bien sûr, j'étais profondément touché par l'événement. D'une part parce que ça représente quand même un moment unique dans l'histoire des États-Unis. La page a été véritablement tournée du temps où les Noirs étaient exclus non seulement de la société mais de l'arène politique. Et maintenant, on a toutes les raisons d'entrevoir une véritable intégration de la société américaine. Mais là, il y a autre chose qui m'encourage également à saluer cet événement, c'est que le département d'État va probablement remettre à plat sa politique vis-à-vis de la région des Grands Lacs. On espère que la façon dont la crise a été traitée antérieurement fera place à quelque chose de plus constructif.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là aussi pour vous. En attendant d'avoir Maître Jean Mbouyou, qui est en route, je vous rassure, il arrive. Sans transition, nous passons à notre premier sujet. Environ deux bataillons rwandais présents ce mardi au Nord Kivu. Comment expliquer la présence de ces troupes en RDC? Au Nord Kivu, justement, les humanitaires n'ont pas eu accès ce mardi à l'axe nord entre Goma et Rutshuru. Ils en ont été empêchés au niveau de la barrière nord de la ville, communément appelée OPRP, à partir de cette barrière, des colonnes des troupes RDC faisaient mouvement vers Kibati et Kibumba, des localités occupées jusqu'il y a 24 heures encore par les militaires du CNDP qui s'en sont subitement retirés. Au même moment, des troupes rwandaises ont été aperçues dans la zone de Kibati. Notre confrère Jules Ngala revient du secteur de Kibati et Kibumba.
À la barrière de l'OPRP, 5 km au nord du Goma ce mardi, plusieurs véhicules sont bloqués côté Goma. Parmi eux, ceux des humanitaires. Ils ne peuvent pas accéder à l'axe Rutshuru via Kibumba. Les militaires qui gardent la barrière leur signifient tout simplement que cela est interdit. Au même moment, plusieurs colonnes de militaires FRDC continuent de passer. Direction nord. Ils arborent des brassards bleu sombre ou noir jaune, signe d'appartenance à plusieurs brigades intégrées ou brassées. À Kilimanyoka, une dizaine de kilomètres plus loin, ce sont deux chars de combat des FRDC qui occupent les lieux. Ils ont pris la place de l'ancien front avancé des militaires du CNDP. Ceux-ci se sont retirés dans la nuit, nous apprend un habitant qui a encore peur de parler. C'est au retour, au niveau du cimetière de Kibati, que nous apercevons des soldats rwandais. Ils sont vêtus de camouflets militaires. Ils portent des armes individuelles à l'épaule et marchent à la file indienne. Leurs uniformes arborent les couleurs du drapeau rwandais sur les épaules. Mais leur nombre exact n'est pas connu. Ils entrent par vagues successives depuis 10 heures ce mardi, nous déclare un officier congolais que nous rencontrons sur place. La plupart des personnes que nous avons rencontrées ce mardi à Goma se disent satisfaites que les soldats du CNDP se soient retirés pour laisser leur place aux soldats FRDC. Mais elles se disent inquiètes avec la nouvelle présence des troupes rwandaises sur le sol congolais pour des raisons d'histoire, déclare-t-elle. Goma, Jules Ngala, Radio Kapi.
Alphonse Monaméré, votre première réaction par rapport à cette présence des soldats rwandais sur le sol congolais.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous venez de suivre la conclusion de notre ami Jules Ngala qui vient de faire le reportage. Il dit que les populations ont été contentes que les militaires du CNDP se soient retirés. C'est pour elles un ouf de soulagement. Mais du reste, l'entrée massive de l'armée rwandaise. Les populations précisent que, effectivement,
c'est une entrée officielle.
C'est une entrée officielle. La population redoute une chose, c'est par rapport à l'histoire. Et je crois que c'est là que nous devons nous arrêter, monsieur le journaliste. Depuis 1994, il vous souviendra que les réfugiés rwandais sont entrés dans notre pays pour soi-disant venir les traquer sur place ici, parce que ces réfugiés-là étaient majoritairement militaires. Vous avez constaté qu'il y avait bel et bien les ex-FAR et les Interahamwe. Eh bien, la paix a fait incursion plusieurs fois dans ce pays.
Donc l'armée rwandaise.
L'armée rwandaise. Mmh. Dans l'objectif de venir traquer les SDLR, les ex-FAR et les Interahamwe. Mais jusqu'à ce jour, et pendant tout le temps de l'occupation, vous êtes témoin, monsieur le journaliste. Dites-nous à quel moment vous avez appris qu'il y a eu un seul front entre la PR et ses ex-FAR, ses Interahamwe et autres.
Donc vous êtes pessimiste,
mais c'est pas pessimiste. Mmh. Et ce que je dois préciser ici, mmh, monsieur le journaliste, c'est que ce qui est fait sans le peuple, sans la population, est effectivement contre la population. Et à ce stade, je dois revenir à une question pertinente. Pour que ces militaires rwandais entrent en République démocratique du Congo, qui sont signataires de ces accords? Sont-ils constitutionnellement établis pour qu'effectivement ces accords-là soient légaux? Et d'autre part, nous, députés élus de la province du Sud-Kivu, nous venons de faire une déclaration tout à l'heure là.
Et qui dit quoi en résumé?
En résumé, nous dénonçons cette entrée de la terre, encore une fois, dans notre pays. Et nous demandons au gouvernement congolais, élu par nos populations, et nous avons dit à la mise sur pied des institutions légalement établies, que c'était des élections, sur base des élections démocratiques et transparentes. Et nous voulons que cette transparence-là soit effective, que toutes les institutions collaborent. Mais il ne faut pas que certaines institutions s'enferment sur elles-mêmes pour prendre des décisions qui vont de l'intérêt de la destinée de toute la nation congolaise.
Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à d'autres invités. D'abord, il faut rappeler que d'après le ministre Lambert Mende, ce sont des officiers rwandais de renseignement invités par le gouvernement congolais. C'est la confirmation qu'il a apportée ce mardi sur Radio Okapi. Lambert Mende, qui est ministre de la communication et des médias, pour lui, cette opération sera menée par les FARDC avec l'appui de la MONUC. Le 5 décembre dernier, les deux pays, la RDC et le Rwanda, avaient annoncé leur décision de vouloir démanteler les FDLR sous le regard d'une mission d'officiers rwandais qui viendraient comme observateurs. Côté rwandais, d'après leur ministère des Affaires étrangères, cité par l'AFP, le gouvernement de Kigali a confirmé l'entrée des troupes rwandaises ce mardi en RD Congo dans le cadre d'une opération conjointe avec l'armée congolaise pour neutraliser les rebelles hutu-rwandais basés en RDC. Mais on va d'abord avoir la première lecture du professeur René Lemarchand. Professeur, vous avez suivi la position du député national Alphonse Monamé et la déclaration qu'ils ont faite avec leurs collègues.
Oui, écoutez, je pense que l'idée d'une opération conjointe entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour désarmer les rebelles est excellente en elle-même, c'est une initiative très positive. Mais ce n'est pas la première fois que l'armée rwandaise est sollicitée pour des opérations de désarmement. En septembre 2007, une initiative analogue a été mise en place, et comme vous le savez, ça s'est soldé par un échec retentissant. Alors je me rallie tout à fait aux commentaires de l'orateur qui m'a précédé à votre micro. Il y a des problèmes, et le premier de ces problèmes, c'est le fait que la présence de l'APR sur le sol congolais rappelle de très mauvais souvenirs. Rappelez-vous qu'entre 1996-1997, des massacres de dizaines de milliers de réfugiés hutus ont eu lieu sous prétexte de mettre fin aux attaques contre le Rwanda. Le résultat, autrement dit, était totalement contraire à ce qui avait été prévu. Et les Interahamwe sont aujourd'hui, évidemment, sont écaillés en brousse, alors que les populations civiles ont été massacrées, jusqu'à Mbandaka d'ailleurs. Donc ça, c'est la toile de fond historique, mais certainement pas encourageante. Deuxième problème, comment procéder? Comment identifier les sites occupés par les FDLR, qui sont éparpillés sur des centaines de kilomètres, au nord et au sud, Kivu. Et là où les FDLR décideront de s'opposer à leur désarmement, on peut évidemment s'attendre à des scènes de violence épouvantables. Moi qui ai visité des sites FDLR en septembre dernier dans le sud Kivu, je me suis aperçu d'un autre problème, c'est que une fois rapatriés au Rwanda, de gré ou de force, les Interahamwe se demandent mais quel va être notre sort. Est-ce que nous avons la possibilité de participer à la vie politique du Rwanda? Et ça, c'est évidemment extrêmement douteux. Et alors, finalement, je voudrais évoquer aussi la possibilité que l'armée rwandaise au Nord-Kivu puisse prendre parti pour une faction ou pour une autre. Prendre parti pour un Ntaganda, Bosco Ntaganda ou par le Rankunda. Autrement dit, il représente sur le sol congolais un levier politique d'une importance capitale qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, la situation reste extrêmement confuse.
Et donc, pour vous, professeur Lemarchand, cette entrée, moi je dis officielle, selon le gouvernement congolais, selon vous, pose une série de problèmes à la fois.
Absolument, des problèmes dont on voit très mal comment ils sont résolus. La situation sur le terrain est encore extrêmement confuse et très lourde de conflits.
Alors, Maître Jean Bouillou, vous êtes là, bonsoir.
Bonsoir.
Ok. Vous avez peut-être suivi, j'espère, les interventions d'Alphonse Monaméré, votre collègue député national, et le professeur René Lemarchand. René Lemarchand qui venait de dire tout à l'heure que cette entrée des officiers rwandais invités, je rappelle, c'est environ des bataillons, environ, pour lui, ça pose quand même un certain nombre de problèmes puisque la situation reste encore confuse.
Oui, cher ami, d'abord mes excuses, je suivais bien cette investiture de Barack Obama aux États-Unis, qui est une cérémonie émouvante.
Difficile de s'en passer, hein?
Difficile de s'en passer, oui, surtout lorsqu'on a vécu quelques temps aux États-Unis. Ce qui a fait que j'ai j'avais qu'on devait un peu en retard.
Ouais, c'est dommage parce que vous n'avez pas eu le temps de mettre un petit commentaire parce que c'est par là qu'on a commencé. Peut-être en un mot.
Oui, en un mot, c'est ce qu'on peut appeler en anglais Amazing Grace.
Voilà.
C'est une grâce extraordinaire. Et la cérémonie l'a bien montré par toute l'émotion dont elle est découverte.
Oui.
Mais concernant.
Pour revenir maintenant sur.
Oui, pour l'armée rwandaise, les deux batailles sont entrées ce matin.
Oui.
Je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste que ça. Hier, lorsqu'on a justement annoncé la signature des accords par toutes les parties, notamment Laurent Kunda et autres, et tout le monde s'est réjoui parce que beaucoup de gens ont appelé du Kivu pour se réjouir du fait que finalement, il y avait quand même une issue pour ce problème-là. Mais il ne fallait pas se douter du piège, c'est-à-dire de la contrepartie. La contrepartie, c'était l'acceptation d'une opération analogue à celle convenue avec l'Ouganda. Alors, dans l'aspect positif, il faut permettre une opération conjointe entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise en vue de s'attaquer à ceux qui ne veulent pas déposer des armes par la négociation. Alors, nous avons dit depuis quelques jours qu'effectivement, il était nécessaire que l'FDLR accepte une négociation en vue de déposer les armes et de retourner au Rwanda. Il est évident, comme le professeur Lemarchand l'a toujours dit, qu'il est important que le Rwanda accepte que ce mouvement rentre dans un cadre politique. Et c'est une chose que nous n'avons pas obtenue du Rwanda jusqu'à ce jour.
Mais pourquoi tout d'un coup le changement de discours du côté congolais?
Non, il n'y a pas un changement de discours, mais il y a un regard sur les intérêts congolais. Est-ce que nos intérêts, c'est que les populations continuent à être continuellement dans les migrations internes, dans les voyages, les dépossessions, les déplacements internes, ou bien notre intérêt, c'est que la population soit stabilisée. Nous avons donc accepté l'idée que les CNDP et autres abandonnent leur projet de faire des armées les FDLR, mais que d'un autre côté, il y ait des officiers rwandais ainsi qu'un certain nombre d'encadreurs qui viennent pour constater qu'il y a réellement une traque des FDLR qui n'acceptent pas de déposer volontairement les armes. C'est pour cette raison que je dis qu'il ne faut pas être trop pessimiste, parce que d'un côté, il y a un besoin de sécurité pour les populations qui vivent au Kivu, d'un autre côté, il y a un besoin de sécurité pour les Rwandais, et il y a un besoin de négocier avec les forces rwandaises qui n'acceptent pas de déposer les armes. Nous savons d'ailleurs que tous les Rwandais sous la dénomination FDLR ne sont pas pro-guerre. Il y en a qui aimeraient bien rentrer, mais ils sont contenus par les extrémistes. Donc c'est pour cette raison qu'il a été finalement trouvé nécessaire de faire une opération militaire congolaise, mais appuyée par une observation de la MONUC et des officiers rwandais de renseignement. Et donc, cette opération est pour le moment salutaire parce que nous devons rassurer aussi le Rwanda de notre intention de ne pas l'attaquer.
Mais est-ce que c'est pour cette traque, est-ce que la RDC a besoin d'environ 2000 soldats rwandais?
Ben, le territoire est vaste. Hein. Je ne suis
pas censé venir comme observateur.
Je ne suis pas militaire pour apprécier l'opération, mais il est vrai que si vous prenez que les FDLR sont au nord Kivu, au sud Kivu et au nord Katanga, il faut quand même un certain nombre de gens.
Puisque vous avez cité la MONUC, maître Jean Bouillou, la MONUC, elle dit, pas impliquée en ce moment dans l'opération en cours au nord Kivu, entre les FARDC et l'armée rwandaise, la mission onusienne, selon son porte-parole Manoje Monubai, n'a pas non plus été impliquée dans la planification de la dite opération. Néanmoins, le porte-parole de la MONUC signale l'existence des contacts avec les FARDC pour définir la forme que l'implication de la MONUC pourrait prendre. Alors, à ce sens, mon ami Ré, comment vous expliquez justement ce fait que la MONUC, je ne fais pas le plaidoyer de la MONUC, mais elle est quelque peu écartée quand même de cette opération. Comment vous comprenez ça?
Vous dites bien, monsieur le journaliste, la MONUC est perplexée. Perplexée dans la mesure où il y a d'une part sur le plateau la paix qu'il faut recouvrer et à tout prix. Mais d'autre part, la MONUC se rend compte qu'effectivement, nous risquons de déboucher sur un imbroglio qui ne permettra pas à l'ensemble du peuple congolais de bénéficier de cette paix. Ce qui est évident, monsieur le journaliste, c'est que l'expérience rend sage. Et nous devons constater qu'au niveau de la province orientale, il y a eu cette opération conjointe. Ouganda, le Sud-Soudan, contre la LRA. À l'heure qu'il est, nous comptons plus de 620 morts dans cette opération conjointe. Et nous comptons également plus de 120 000 déplacés à l'intérieur même de notre pays.
Donc vous avez peur pour...
Non, pour vous dire que l'histoire serait édite. Et deuxièmement, monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo a des pays alliés. Nous avons l'Angola, nous avons des organisations régionales comme la SADC, nous avons toute la communauté internationale qui, du reste, nous a aidés à organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre à ce stade que nous puissions remuer la plaie qui a
le
couteau dans la plaie de ce type de population. Les bourreaux d'hier qui viennent faire la leçon aujourd'hui, c'est ça qui surprend plus d'une personne. Voilà un peu, monsieur le journaliste, ce qui est de notre point de vue.
On va prendre la réaction de Vital Camara, mais d'abord, peut-être un petit commentaire de votre part, professeur René Marchand.
Oui, écoutez, mon seul commentaire, c'est que la MONUC devrait s'investir de façon beaucoup plus profonde dans le processus de désarmement. Ce qui me fait peur personnellement, c'est la perspective de voir les FDLR désarmés par des éléments de l'armée rwandaise. Ce serait une situation qui me semble extrêmement difficile et dangereuse. Et la MONUC, par ailleurs, a quand même des services techniques. Elle peut faire figure, disons, d'intermédiaire. Elle peut faire aussi, disons, figure d'un arbitre plus ou moins neutre dans cette histoire. Donc, je crois que la MONUC devrait s'investir dans l'opération désarmement.
Et si elle n'est pas invitée?
C'est ce que je voudrais souligner.
Et si elle n'y est pas invitée?
Ben écoutez, si je n'ai pas invité, ce serait regrettable, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, parce que un affrontement direct entre les FDLR et les soldats rwandais, c'est pas ce qui va créer, disons, une atmosphère très, très pacifique. Ça pourrait résulter, des accrochages extrêmement violents et, à terme, remettre en question toute opération, comme ce fut le cas à la fin de l'année 2007. Donc, ce n'est pas une opération simple, loin de là.
Mais de source, je pense que l'Union européenne, la RDC, l'UNICEL, voit en la participation de l'armée rwandaise au désarmement des rebelles de la RDC un signe tangible de la normalisation en cours entre les deux pays et qui répond à son initiative d'autrefois qui aboutit au sommet de Nairobi 2 le 7 novembre dernier. Pour le commissaire européen, c'est seulement dans le cadre d'une coopération au niveau régional qu'une solution durable pourra voir le jour en ce qui concerne les crises persistantes dans l'est de la RDC. Mais du côté de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président de la Chambre basse du Parlement, lui s'étonne de cette présence des militaires rwandais en RDC. Vital Kamerhe ne comprend pas la vitesse qu'ont pris les événements alors que l'Assemblée nationale avait déjà soumis au gouvernement un plan de sortie de crise. Vital Kamerhe se demande si toutes les mesures ont été prises pour protéger la population civile. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Désiré Baye.
Ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Tout ce que je sais, c'est que l'Assemblée nationale avait adopté un plan de sortie de crise en octobre 2008, soumis au gouvernement sous forme de recommandations. Ce plan avait tracé le cadre de la normalisation de nos relations avec le Rwanda. Ce plan avait aussi le volet politique. C'est ce qui était en train de se faire donc à Nairobi. Mais nous avons aussi retenu dans ce plan qu'il faut absolument arriver d'une manière ou d'une autre à éradiquer les ex-FARC interarmées. Nous avions demandé qu'une force régionale de la SADC puisse venir dans notre pays pour faire ce travail aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous me dites que les troupes rwandaises viennent d'entrer au Congo. Je préfère croire que c'est faux, puisque si c'est vrai, c'est tout simplement grave, parce que cela va soulever un certain nombre de questions. Nous nous posons la question de savoir dans quel état d'esprit se trouvent nos populations qui vivent à peine de sortir de l'agression rwandaise.
Maître Jean Bouillou, comment expliquer que le gouvernement invite des troupes étrangères, en l'occurrence des troupes rwandaises, sans que le président de l'Assemblée nationale ne soit au courant?
Non. D'abord, il faut quitter les propos démagogiques. Ce que le président de l'Assemblée dit, c'est démagogique. Et il faut éviter la démagogie.
Comment cela?
D'un côté, nous avons signé les accords de Nairobi qui reconnaissaient, avec l'accord du Parlement, qu'il y aurait une modalité commune pour attaquer, disons, pour faire désarmer les FDLR, volontairement d'abord, mais s'il n'acceptait pas, cela devrait demander une force conjointe. Ce dispositif qui a été discuté ici à Kinshasa, en présence des militaires rwandais et en association, disons, des forces internes congolaises, a été signé. L'acte a été signé ici à Kinshasa. Alors, il ne faut pas venir plus tard dire non, moi je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je demandais ceci. Ce qui est vrai, le dispositif demandé pour que les forces régionales interviennent n'ont pas d'effet parce que les forces régionales n'ont pas accepté. Et c'est clair, l'Angola l'a déclaré clairement. Et c'est sous l'Angola qu'on misait. Alors, il ne faut pas, quand il n'y a pas de solution souhaitée et qu'on doit chercher une solution alternative, intervenir pour dire non, nous on ne connaît pas de solution alternative. Non,
donc
on éviter la cacophonie.
Donc vous dites que le Parlement était bel et bien informé.
Bon, je ne dis pas que le Parlement, le débat n'a pas eu lieu au Parlement, mais parmi les décideurs, l'intelligentsia politique, il était entendu, il était connu que la contrepartie du désengagement de Laurent Kounda devait être assorti par la clause qu'il y aurait une permission pour le Rwanda de venir dans une opération conjointe, genre Ouganda. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a deux jours je disais qu'il ne fallait pas que l'opération se répète comme dans le cas de l'Ouganda, parce que les rebelles, au lieu de faire face à la force qui est venue, se sont rabattus sur les plus faibles des populations. Donc, il fallait là une... probablement un temps supplémentaire pour préparer une opération dans laquelle les rebelles ne s'attaqueraient pas aux populations sans défense. C'est peut-être cet aspect-là qu'il faut soulever. Mais il ne faut pas fuir, parce que nous avons des problèmes réellement auxquels il faut donner des solutions, parce que les pays étrangers et ceux qui les soutiennent demandent qu'on puisse décider rapidement. Voilà ce que je peux dire à ce niveau.
Oui, à France, mon ami. Approchons-vous du micro, s'il vous plaît.
Monsieur le journaliste, je suis exacerbé. Le collègue député national,
Jean Bouillou,
heureusement qu'il reconnaît personnellement que la question n'a jamais, mais alors jamais été discutée au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas à faire de polémique. Et nous nous disons, ce que nous recherchons, c'est la paix. Et rien que la paix. Et dans les cas d'espèce, nous estimons que les accords de Nairobi, parce que c'est de ces accords-là qu'ils parlent, s'ils ont donné des brèches à l'entrée d'une armée étrangère, c'est bon. Mais nous nous disons, pour éviter de remuer cette plaie, pourquoi n'a-t-on pas recouru à la SADC? L'honorable a cité bel et bien l'Angola. Nous pensons que l'Angola était prêt à venir au pays avec des préalables. Que l'Angola est la bénédiction de la communauté internationale.
C'est pas le Rwanda.
C'est pas le Rwanda. Que l'Angola est la bénédiction de la communauté internationale. L'Angola était prêt à venir assister les FRDC dans cette opération conjointe.
Bref.
Quels sont les efforts qui ont été fournis pour qu'effectivement l'Angola joue ce rôle et que nous ayons la bénédiction de cette communauté internationale?
L'Angola refusé. L'Angola refusé, dit Maître Jean Bouillou. Oui, professeur Alain Machin.
Oui, je ne sais pas si la SADC a les moyens financiers et techniques d'intervenir de façon efficace au Congo. C'est une région difficile, complexe. Vous me direz que le Rwanda est encore moins qualifié pour faire ce travail, étant donné que le Rwanda joue d'un préjugé extrêmement défavorable aux yeux des Congolais. Je n'ai pas la réponse à votre question. Je crois que si l'armée rwandaise devait mettre fin à la présence armée des FDLR, ce serait certainement très souhaitable. Mais par ailleurs, il faut s'interroger aussi sur le but ultime de cette présence militaire rwandaise. Est-ce que le but de cette présence militaire est de renforcer la position de Nkunda vis-à-vis de son rival Ntaganda, ou l'inverse? Il est bien évident que depuis des mois et des années, le Rwanda a été très impliqué dans l'assistance qu'il a prêtée aux troupes de Nkunda. Et on ne voit pas que Kagame ferait volte-face du jour au lendemain. Donc il y a toujours cette question des motifs ultimes de l'intervention rwandaise.
Merci beaucoup. On va prendre quelques réactions avant de clore ce premier thème de notre débat. Benjamin Kitopi nous a écrit de Lubumbashi au Katanga. Il pense qu'il faut accorder une chance à l'opération conjointe par des armées patriotiques rwandaises, car les FDLR constituent une menace pour le peuple congolais et un prétexte pour le Rwanda d'agresser la RDC. Junior de Bunia, dans la province orientale, se demande ce que diront nos autorités qui avaient juré devant le peuple que les troupes rwandaises ne combattraient pas à leur côté. Quelle crédibilité s'interroge-t-il pour notre gouvernement? Jean Gongué, depuis Londres, je n'y comprends plus rien, la situation au nord Kivu, l'armée congolaise a été battue, humiliée, le CNDP était au port de Goma, soudain, il s'arrête, puis négocie en position de force à Nairobi, et maintenant, il déclare rejoindre les FARDC sur le midière pour traquer les FDLR avec l'armée rwandaise. Pourquoi le CNDP et le FARDC n'avaient pas eu cette idée avant de se faire la guerre et que nos pauvres frères et sœurs du Kivu comprennent qui pourra? Peut-être en quelques secondes, hein, très rapidement, vraiment quelques secondes, M. Jean Bouillon, quelques secondes.
Oui, le Rwanda a toujours demandé qu'elle puisse avoir l'autorisation d'entrer pour traquer les FDLR. Ça, ça a toujours été, depuis des années, la demande du Rwanda. Et nous avons toujours opposé au Rwanda l'idée que nous le ferions nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'il y ait une force étrangère. Mais la vérité, vous la connaissez, puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons jamais réussi ni à traquer les FDLR complètement. Nous avons négocié avec les FDLR pour qu'ils déposent des armes, ils n'ont jamais accepté, et nous n'avons jamais réussi non plus à stopper l'armée rwandaise ou les dépendants de l'armée rwandaise comme les boucs émissaires de Laurent Nkunda. Parce que notre armée devait faire ce travail-là. Alors, il ne faut pas acculer un gouvernement dans une position où il est sans solution. Il faut qu'il y ait des solutions, et il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais il faut des solutions.
Voilà. Benjamin Kitopi, pour vous, Alphonse Mounamiré, il y a cet auditeur de Lubumbashi qui dit qu'il faut accorder une chance à cette opération.
Oui, monsieur le journaliste, à ce niveau ici, je dois d'abord en profiter pour présenter les félicitations les plus sincères au FARDC pour les exploits au quotidien. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le journaliste, revenant à la question du collègue, maître Mbouyou, je suis un peu fasciné, effaré même. Effaré pourquoi? Parce que si nous regardons l'ossature de notre armée, il y a lieu de se demander si nous continuons à vivre le 1 plus 4. Et donc, il serait fataliste que de dire à ce stade que notre armée est faible. Non. Nous nous disons, nous avons un problème plutôt de commandement. Et il faut relever bel et bien cette question-là. Au nord Kivu, oui, si vous lisez en diagonale la composition de commandants, du commandement qui pratiquement fait ligue contre Laurent Nkunda aujourd'hui, il y a lieu de se demander si Saint-Paul peut chasser Saint-Pierre du trône.
Voilà.
Donc, c'est à ce niveau-là que se trouve la clé
du
problème.
Ok. Nous avons un deuxième lot de réactions. On va peut-être demander au professeur René Lemarchand d'y réagir. Ce sont les auditeurs qui nous envoient leurs messages. Jean-Claude Toto à Bachaouri nous écrit depuis Kiwanja au nord Kivu. Pas d'importance de désarmer les FDLR par force sur le sol congolais. Car là, ce sont les Congolais qui vont subir encore des exactions de cette guerre. Seul le dialogue inter-rwandais pourrait mettre fin à ce problème des FDLR. Sosten nous écrit de Goma. Il demande si le gouvernement a pesé, mesuré les pertes de vies humaines qui découleraient de cette opération conjointe FARDC-APR. La diplomatie congolaise n'est-elle pas en mesure de convaincre les Rwandais de dialoguer avec les FDLR? Paul Ouyeye de Kinshasa. En acceptant les soldats rwandais au nord Kivu pour assister au désarmement des FDLR, quelles sont les mesures prises pour éviter le débordement et sécuriser la population civile? Issada Kinta de Kindoumaniema pense que le gouvernement congolais a trahi le peuple congolais en acceptant que les troupes rwandaises viennent traquer les FDLR aux côtés des FARDC. la solution pour mettre fin à la crise de l'Est reste un dialogue politique au Rwanda. Pascal Olekonde, enfin, de Lubumbashi, pense que cette proposition du président français, évidemment là, c'est le deuxième thème. Très rapidement avec vous, professeur René Marchand, pour clore ce sujet.
Toutes les questions qui ont été soulevées me paraissent extrêmement pertinentes.
Et le débat interrwandais qui revient, oui.
Oui, bon, le plan Sarkozy, c'est une autre chose.
On en parlera
plus tard. Oui, à l'heure actuelle, je crois que la situation reste extrêmement confuse et qu'il est très difficile de savoir ce que sera, la conséquence de l'intervention rwandaise dans Nord Kivu. Je suis personnellement extrêmement sceptique des possibilités de succès de cette intervention pour des raisons qui ont été évoquées par vos interlocuteurs.
Merci beaucoup. Deuxième thème de ce débat, la proposition du président français pour régler la crise à l'est de la RDC, une proposition qui concerne notamment la gestion concertée des richesses de l'est du pays. On en parle juste après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Le président français Nicolas Sarkozy a formulé vendredi dernier un certain nombre de propositions pour tenter de remédier aux problèmes dans la région des Grands Lacs. C'était lors d'un discours à l'Élysée à l'occasion des vœux annuels du corps diplomatique. Les détails sur les propositions de Nicolas Sarkozy avec Guy Maté.
Pour le président français, l'option militaire n'apportera aucune solution au problème des sangs qui se posent de façon récurrente depuis 10 ans dans la région des Grands Lacs. Pour lui, il faut trouver une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. La nouvelle approche, selon Nicolas Sarkozy, devrait s'inscrire dans ce qu'il appelle, je cite, « un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel ». Et dans ce dialogue, dit-il, on devrait s'interroger, je cite, « comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses, et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois et que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faut apprendre à vivre les uns à côté des autres ». Cela met en cause, selon Nicolas Sarkozy, la place et la question de l'avenir du Rwanda avec lesquels la France, son pays, a repris son dialogue. Le président français d'ajouter, je cite, « les Rwandais, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite ». Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Fin de citation.
Pour l'ambassadeur de France à RDC, il s'agit simplement d'une mauvaise interprétation des propos du président français par la presse. Selon ce dernier, le président Sarkozy a proposé plutôt l'instauration d'une gestion commune, concertée des richesses de la région, mise au point de Pierre Jacquemot, ambassadeur de France à RDC. Il était au micro de René Capita.
En fait, il y a un malentendu. Le président Sarkozy souhaite participer à des initiatives en faveur du retour à la paix dans cette région meurtrie des Kivu et dans l'Ituri. Pour établir la paix, il faut casser l'économie frauduleuse qui s'est installée au détriment des populations, au détriment du Congo, et qui consiste à exporter frauduleusement les richesses du pays, principalement le coltan ou l'or. Et il faut trouver, une fois que la paix est rétablie, à installer une économie de paix. Une économie de paix, c'est une économie de bon voisinage, une économie qui tournait vers les populations, la satisfaction des populations. Et il y a tout un tas de projets où l'un, le Rwanda, le Burundi, le Congo, dispose d'une ressource qu'il peut partager avec l'autre pour pouvoir l'exploiter.
Voilà, je rappelle que nous avons comme invité le député national Alphonse Mounami, réélu de Walungu au sud Kivu, maître Jean Bouillou, élu de Lubumbashi, du PPRD, et le professeur René Lemarchand, professeur émérite de l'Université de Floride aux États-Unis. Professeur René, comment vous avez accueilli cette proposition de Nicolas Sarkozy, le président français?
Très positivement, je crois que c'est un plan qui doit être pris au sérieux, qui mérite une attention particulière de la part des autorités de Kinshasa. Ce n'est pas du tout une aberration, comme le prétend une certaine presse, ni d'ailleurs une façon détournée de favoriser les intérêts économiques du Rwanda. C'est, pour dire les choses comme ça, une invitation à mettre en place les conditions d'une paix durable. Et ceci grâce à un partage équitable, je souligne le terme équitable,
oui,
des ressources minières et foncières et de l'Est du Congo, et aussi donner à la minorité Tutsi les droits légitime qui la concerne.
Est-ce que c'est le moment, professeur Alain Marchand, de lancer cette proposition? Pourquoi ne pas attendre que la région de l'Est soit pacifiée avant de faire cette proposition?
Oui, tout à fait, mais il n'est pas trop tard pour mettre ce plan à l'étude. C'est d'ailleurs un plan qui s'inscrit dans la perspective de recommandation de l'ancien secrétaire d'État américain pour l'Afrique, Herman Cohen, qui, dans les pages du New York Times, préconisait la mise en place d'un marché commun pour la libre circulation des biens et des personnes, et pour la remise, et ça c'est très important, pour la remise de taxes et de droits d'exploitation à l'État congolais. À l'heure actuelle, l'État congolais ne retire pratiquement rien de ses ressources minières, parce que ces ressources sont maintenant phagocytées par les milices en présence. Et j'ajouterai à ça que la
proposition
amène automatiquement à donner un nouveau souffle à la communauté économique des pays des Grands Lacs.
En quelques minutes, on tend vers la fin de l'émission. Bon, on ne coupe pas beaucoup de temps. Alphonse, mon ami, pardon.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis d'avis avec le professeur, le marchand.
Il dit que c'est positif.
Il dit que c'est positif. Mais à moi, il faut voir l'autre revers de la médaille. Revers de la médaille dans la mesure où, pour nous, cette déclaration-là, nous considérons que c'est une façon de mépriser en même temps le gouvernement congolais.
Dans quel sens?
Dans quel sens? Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement, commençant par la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Parlement, et toute la suite, toutes les institutions sont légalement élues. Il y a lieu de se demander si, pour qu'il y ait une gestion, il faut que ça soit des leçons qui nous viennent de l'extérieur.
Donc pour vous, c'est inacceptable?
C'est inacceptable, dans la mesure où, effectivement, c'est le gouvernement congolais, en précisant que c'est le chef de l'État congolais qui est garant de la nation, et c'est lui, pratiquement, qui doit prendre toutes les directives par rapport à la destinée de la nation congolaise.
On va terminer par M. Jean Bouille.
Oui, merci. D'abord, l'idée n'est pas nouvelle. La CPG a été constituée sous l'auspice de la Belgique et des États-Unis en vue de régler cette question. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la société CINELAC, c'est une société conjointe
d'énergie.
Rwanda, Burundi, Congo, en vue d'exploiter un barrage qui est transfrontalier. Alors, donc, et ça se passe plus ou moins bien parce que c'est au sein de CINELAC qu'on règle toutes les questions de conflit qui pourraient arriver du point de vue de l'énergie. Alors, l'idée est d'étendre, d'ailleurs, depuis 5 ans, Il y a eu l'idée d'installer une usine pour traiter le coltan et des usines pour autre chose, pourvu que ce soit des projets régionaux. On a même envisagé des projets entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo, ainsi de suite.
Mais est-ce que vous pensez, excusez-moi, M. Mbouyou, que la proposition du président français rentre dans cette idée de la CPG?
Bon, probablement les termes du président français pourraient s'écarter d'une certaine orthodoxie. Mais quand j'ai lu intégralement sa déclaration, elle n'avait rien d'une prise de position en faveur du Congo ou en faveur du Rwanda. En tant qu'étranger, puisqu'il faut prendre sa déclaration dans le cadre du fait qu'il est un étranger, il voit la solution dans une mise en commun des ressources en vue de l'exploitation commune pour que ceux qui sont les pirates, puisqu'il faut les appeler ainsi, soit mis à la réalité de respecter l'ordre établi d'un autre côté. Et donc, pour régler cette question aujourd'hui sur le plan tout à fait du droit, il faut une coopération internationale.
C'est ce que pour lui, la gestion au niveau de la RDC est étrange. Je cite le mot.
Oui, le mot étrange est en lui-même étrange. Parce que dire que la gestion est étrange, c'est ramener la question à des interprétations. Mais il est vrai que la question n'a pas été clairement gérée par notre gouvernement. Qu'est-ce que notre gouvernement donne comme réponse par rapport à la CPG? Par rapport à la fraude, par rapport à la prise des positions douanières par des rébellions. Mais il faut que le gouvernement donne des réponses convaincantes. C'est pourquoi nous disons, il y a ici non pas matière à débat politique, mais il y a matière à débat technique pour que des diplomates, des politiques, des secrétaires de politique étrangère se mettent sur une table et négocient.
Merci beaucoup, maître Jean-Bouille. Le débat reste ouvert. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion d'y revenir. Merci à vous trois. C'est la fin de cette émission. Jean-Claude Sial a été la mise en œuvre, réalisation de Claude Kianza, toute l'équipe avec Kelly Couté, Guy Maté, Pierre Lamégi, sans oublier Martin Sebougeant, qui était à la coordination. Jean-Claude Toumba Kamanga, je vous dis merci de rester fidèle à la radio. Oh, Kati, oh, Kati.